Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Tous les jeudis, le réveil culturel se fait en musique. Et aujourd'hui, mon invité est Arthur H, qui vient de publier au Mercure de France un petit éloge de la fugue en trois mouvements, résumé par l'auteur lui-même, qui est bien gentil de faciliter ainsi la tâche des journalistes.
Fugue, action de fuir, de s'enfuir du domicile familial, sans prévenir. 1958, ma mère disparaît des radars. Avec ses camarades, elle quitte sa banlieue ouvrière. Leur but, c'est Tahiti. Mais ils atterrissent en Corse et vivent dans le maquis, sans rien. Fugue, 1982. J'ai 15 ans. Je m'enfuis aussi, sur un voilier, aux Antilles. Voyage psychédélique, initiatique. Fugue, 1740. Jean-Sébastien Bach commence l'écriture de l'art de la fugue. Une fugue à trois voix. Bach, ma mère et moi.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Arthur H.
Bonjour.
On commence par Bach, comme ouais, dans le livre.
D'accord.
L'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, arrangement pour cordes et basses par l'Accademia Bizantina, dirigé par Octavio Danton, c'était en 2017. Fugue au pluriel est paru dans la belle collection Traits et portraits, dirigée par Colette Fellous au Mercure de France. Arthur H., le livre est composé de trois fugues, celle de votre mère Nicole, à l'âge de 18 ans, qui quitte sa banlieue ouvrière d'Argenteuil avec une bande d'amis, à la fin des années 50, avec comme objectif fou rejoindre Tahiti en radeau, mais ils vont échouer en Corse, dans des conditions d'ailleurs très comiques, on va en parler. Il y a à la fin de ce livre votre propre fugue, Arthur H., alors que vous n'aviez même pas 16 ans, quand vous étiez en vacances à Pointe-à-Pitre, vous refusez de prendre l'avion qui devait vous ramener à Paris avec votre père et votre frère, pour Tampere. Mais pour commencer, vous avez décidé de commencer par les fugues de Jean-Sébastien Bach. Pourquoi d'ailleurs ?
Oh, bah parce que j'ai une admiration fidèle à Bach depuis que je suis adolescent. En fait, j'écoutais du punk et du reggae, de la cold wave et du Bach. Et puis ça m'a jamais quitté. J'écoute plus de punk, mais j'écoute toujours du Bach. Donc voilà, c'est vrai que pour les musiciens, Bach c'est vraiment quelqu'un qui est toujours inspirant, dans lequel on a toujours envie de se plonger dans son œuvre, de comprendre comment ça marche, d'être inspiré. Il y a une tonalité un peu cosmique, universelle qui me touche toujours. Voilà.
Mais est-ce que l'idée de la fugue, vous l'entendez dans sa musique et plus précisément dans l'art de la fugue? Parce que ensuite, quand vous parlez de Jean-Sébastien Bach, eh ben oui, c'était un grand fugueur. Hein, il était prêt à marcher des kilomètres et des kilomètres pour assister à un concert. Et puis surtout, à la fin de sa vie, il a décidé d'explorer une musique abstraite et cosmique. C'est une forme de fugue.
Oui, bah c'est, en tout cas, c'est une question que je pose dans le livre. Quel est le rapport entre la, une fugue et une fugue?
Mais comment ces trois fugues dialoguent entre elles?
Ouais. Bah, alors ça, j'ai trouvé un truc simple, parce que j'étais dans ma petite roulotte, tranquillement, pleine nature, avec dans ma vie, voilà, de, sans aucun confort, mais dans une sorte de petit paradis, comme ça. Et à un moment, il y avait une brume, quelque chose comme dans la nature, quelque chose d'assez mystérieux, une très belle lumière, un peu surnaturelle, un cheval blanc qui passe, parce qu'il y avait des chevaux en liberté tout autour de la roulotte. Et là, j'ai vu Bach apparaître en forme d'hologramme, et c'est là que j'ai eu l'idée de...
Il ressemble à quoi, Bach?
De lui raconter cette histoire, en fait. Bah, c'est un esprit qui... Je pense que si on croit dans l'éternité de l'âme, un esprit qui travaille énormément, qui a une obsession dans la vie physique, bah va garder cette obsession dans l'au-delà. Et du coup, dans l'au-delà, bah il a toujours besoin de composer des musiques, puisque la musique met l'univers en mouvement, donne une énergie, donne un sens, donne une direction. Et c'est ce que Bach fait toujours, donc dans l'autre monde, dans d'autres dimensions. Donc il me demande, lui-même me demande de me raconter des histoires pour l'inspirer, parce que comme dans la vraie vie où il avait besoin des cantates, des fêtes et tout ça comme prétexte à la composition, là il a besoin de juste d'idées de départ, un mot, une situation, un espace pour pouvoir composer de la musique. Donc il me demande de raconter d'abord la fugue de ma mère et ensuite la mienne.
Et pourquoi la fugue? Est-ce que pour vous, quand je disais en préambule que c'était un petit éloge de la fugue, votre livre Arthur H, vous êtes d'accord?
Oui, bah déjà, alors la fugue musicale, c'est une forme assez précise, historique, disons, même si ça a été un peu utilisé après Bach, mais pas tant que ça, en fait. Donc c'est un thème qui se répète, on brode autour de ce thème, on le transforme. Donc il y a quand même cette idée de transformation perpétuelle, quoi, d'espèce de mouvement sans fin, quoi, déjà dans la fugue musicale. Et après, dans la fugue, le fait de s'enfuir, il y a cette idée que je trouve, qui me touche beaucoup, qu'on s'offre à soi-même, qu'on décide soi-même de sa propre liberté, qu'on n'attend pas qu'on nous l'offre sur un plateau, ou que c'est pas quelque chose d'acquis, quoi.
Un acte émancipateur.
Voilà, un acte qui a une certaine violence aussi. Hein. C'est un acte assez radical quand même, parce que là, c'est violent une fugue, ça coupe. Ça veut dire quand même qu'il y a un vrai problème à la base qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais il y a aussi une beauté dans le fait de dire voilà, maintenant ma liberté. Je la veux tellement que je me l'offre à moi-même. J'attends pas qu'on me l'apporte. C'est moi qui décide de l'heure, du moment de ma liberté.
Parlons de la fugue de votre mère. Quand vous racontez cette fugue, ouais, pour vous, c'est clair que ça a été un moment fondateur de sa vie, de sa personnalité.
Ah bah oui, bien sûr, parce que bon, déjà c'est un acte de courage quand même qui est tout sauf facile.
Parce qu'on est à la fin des années 50. Hein.
Ouais, voilà, c'est une jeune femme qui est très en avance sur son époque. C'est-à-dire que dans sa tête, elle est émancipée déjà, elle est libre.
10 ans avant mai 68, on peut
même
le préciser.
Ouais, 10 ans, et voilà, elle était vraiment comme une jeune fille d'aujourd'hui, comme une jeune fille aujourd'hui normale, disons, peut se sentir libre de faire ce qu'elle a envie de faire, bon, plus ou moins, quoi. Sauf que elle était en prison, quoi. C'est son milieu social, sa famille, le milieu socio-culturel dans lequel elle évoluait, ne lui laissait juste aucun droit, aucune opportunité, et au contraire la tenait prisonnière dans un sillon tracé qui était pour elle très morne, quoi, très sans air, sans joie aussi.
Elle voulait échapper à quoi? Au carcan familial, à la tradition familiale, à la condition sociale?
Ouais, tout ça, je pense qu'elle, à la fois, elle était très consciente et aussi très inconsciente en même temps, mais avec, voilà, un espèce d'appétit de liberté qu'elle savait pas comment, fabriquer cette liberté. Donc le seul moyen, c'était de dire, voilà, on part à Tahiti, parce que aussi, je raconte comment dans leur tête d'adolescent, en fiévré, Tahiti, c'est aussi hyper sexuel, quoi. C'est-à-dire que c'est un endroit où tout d'un coup, dans leur imaginaire, on vit plus ou moins nu, et puis c'est c'est à l'ancienne, quoi. C'est le Tahiti d'il y a 300 ans. C'est-à-dire, tout le monde
fait. Une fois de plus, on avance sur leur temps.
Non, mais il y a 300 ans dans le passé, quand les Blancs sont arrivés à Tahiti, puis que c'était, qu'ils ont eu l'impression que c'était l'amour libre, parce qu'effectivement, il y avait complètement un autre rapport au sexe et au corps. Donc, dans leur tête, c'est ça, quoi. C'est Tahiti, c'est. On n'aura pas besoin d'argent parce qu'il y a à manger partout. On n'a pas besoin de travailler. Donc, ils voient le travail comme quelque chose de vraiment terrible, quoi. Et puis, on pourra surtout, je pense, faire l'amour comme on veut, quoi. Il y a ça. Ils osent pas se le dire, mais c'est ça qui les motive un petit peu. Bon, ça se comprend, hein.
Oui, tout cela se comprend. Il y a quelque chose quand même qui reste quand même assez incroyable. Ils pensaient réellement qu'ils allaient rejoindre le bout du monde dans une embarcation de fortune, Arthur Ashe.
On est tous. Alors comme ça, ils ont l'air très crédules. Effectivement, parce que on sait très bien que si on construit un radeau en Normandie ou en Corse ou à Cannes, ça va être très très difficile d'arriver à Tahiti. Enfin, ça va être impossible. On va mourir avant, on va couler avant. Et donc, on a l'impression qu'ils sont très crédules. Ils étaient très crédules, bien sûr. Mais on l'est tous, en fait. On croit tous à des illusions incroyables dont on est persuadé qu'elles sont très réelles. L'être humain est crédule, naturellement, quoi. On l'est tous, en tout cas, à certains moments de notre vie. Donc, eux, je pense que surtout, ils ont voulu croire à cette idée, quoi. Et à partir du moment où tu veux croire à une idée, t'y crois. Si tu crois que Jésus a ressuscité le troisième jour, et ben tu t'as envie d'y croire parce que ça te touche, tu y crois vraiment et pour toi c'est vrai, il y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc dans toutes les religions, en politique, dans n'importe quel domaine, à partir du moment où on a envie vraiment de croire à quelque chose, on y croit et puis pour nous c'est la vérité tout simplement. Donc eux ils étaient dans cet état de... et c'est aussi cette idée qui leur a permis de partir. Et après, ils l'ont abandonné, ceci dit. Ils ont abandonné l'idée de partir à Tahiti, parce qu'ils sont trouvés en Corse. Ils sont partis en Corse parce qu'ils pensaient qu'il y aurait une crique cachée, secrète, où ils pourraient construire un radeau illégal tranquillement. Mais évidemment, là-bas, ils étaient dans la survie, dans l'organisation de leur survie. Et il n'y avait pas du tout de place pour cette forme de délire, en fait.
Cette fugue de votre mère, Nicole Courtois-Higelin, Arthur Ashe, elle est très documentée. Elle est documentée parce que je suppose qu'elle vous a elle-même donné la version des faits. Mais surtout, il y a des lettres de cette période qui témoignent. Et on lit ces lettres parce que vous les publiez dans votre livre Fugue au Mercure de France. C'est vraiment juste incroyable.
Déjà, c'est la collection de Colette, 13 et portraits, qui est aussi une collection iconographique, qui plus ou moins autobiographique, mais c'est très libre, avec de l'iconographie, quoi. C'est ça le principe de la collection. Donc, et il se trouve que quand Colette m'a demandé, m'a proposé un livre, j'ai tout de suite pensé, j'avais très très envie de raconter cette histoire, que je trouvais, voilà, une histoire d'enfant sauvage magnifique. Donc, j'ai interrogé ma mère, évidemment, je l'ai enregistrée pour partir d'une matière. Et ensuite, elle a cherché dans ses vieilles affaires, elle a retrouvé un gros paquet que mes grands-parents avaient gardé avec toutes les putains de lettres de l'époque, magnifiques.
Ça s'est passé quand, justement, cette découverte de ces lettres incroyables qui racontent cette fugue?
Il y a même pas un an.
Donc on est bien d'accord. Quand vous, à 16 ans, vous décidez de fuguer en laissant dans un papier froissé, j'ai bientôt 16 ans, je dois commencer à vivre, il faut absolument que je reste ici. Ne vous inquiétez pas pour moi, Arthur, vous n'étiez pas du tout au courant de la fugue de votre mère.
Absolument pas, non, je l'ai appris très très nombreuses années après.
On va parler de votre fugue, Arthur Ashe.
Navigateur solitaire, tu traverses les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Et si les vagues sont tes maîtresses, ta femme c'est l'infini. Ni satellite,
GPS. Seule la belle étoile au ciel navigateur solitaire. Tu as grandi les univers. Navigateur solitaire, tu quittes ton père, tu quittes ta mère. Oh, dans les nuages, tu observes des corps de femmes alanguis. S'allume qu'à pour toi, unique adorateur de l'univers.
Le réveil culturel avec Arthur H. Le 15 mars 1982. Chère maman, tu sais maintenant que je ne suis pas monté dans l'avion pour Paris. D'abord, pardonne-moi, mais sache que je reviendrai bientôt et que j'étais engagé comme mousse. C'est incroyable. On va parler de votre fugue. Vous avez parlé des fugues de Bach, de la fugue de votre mère quand elle avait 18 ans. Ça se termine par votre propre fugue. Vous n'avez pas 16 ans, Arthur H. Hein, ce que vous racontez dans ce livre, donc édité au Mercure de France. Alors là, c'est un peu le contraire de ce qui s'est passé avec votre mère, hein. C'est-à-dire votre mère, elle voulait vraiment éclater la tradition qui l'étouffait à Argenteuil, sa condition, la vieille France ouvrière. Vous êtes en vacances avec votre père, Jacques Higelin, dans la maison de son ami Coluche. Vous êtes avec votre frère Ken. Il va se passer des choses. Ils vont se lâcher, hein, les parents. Ils vont se lâcher, les parents. Vous allez vivre des événements que vous allez nous raconter. Est-ce que c'est ça qui décide en définitive de cette fugue? Est-ce que c'était le fait de voir vos parents, Coluche, faire des omelettes avec des produits stupéfiants qui fait que vous avez décidé de tout rompre et à l'âge de 16 ans, même pas 16 ans, d'aller jouer au navigateur pour reprendre le titre de ce morceau que vous avez enregistré en 2004, Navigateur solitaire.
Non, c'est pas le fait de les voir, parce que moi j'ai toujours été assez naïf par rapport aux drogues. J'ai jamais vu ce qui se tramait vraiment, tout ce qui est cocaïne et tout ça, ça m'est complètement étranger. Alors, évidemment, j'ai fréquenté des milieux où les gens prennent pas mal, mais moi j'en ai jamais pris et j'ai jamais vu les gens en prendre, quoi. Donc je suis quand même une espèce de naïveté. Non, là, c'est là, j'ai goûté le produit, là. J'ai goûté l'omelette aux champignons hallucinogènes, comme je dis, des champignons là-bas qui poussent naturellement sur les bouches de vaches. On peut aller les cueillir à l'aurore ou l'après-midi ou n'importe quand. C'est des beaux champignons sur des belles bouches de vaches. Et ces champignons sont assez puissants quand même. Ils changent complètement vos états de conscience. Et du coup, voilà, j'en ai pris avec mon père. 2 jours avant de partir, et c'était un voyage très très déstabilisant et très beau aussi, très fort en tout cas, qui m'a simplement montré que l'univers était beaucoup plus vaste que ce que je pensais, quoi, qu'il y avait quelque chose au-delà, des choses que je ne pouvais pas deviner. Des choses que je ne connaissais pas, que l'univers était très mystérieux, très large. Voilà, le monde, la vie, et pas simplement résumé à ma petite vie de lycéen malheureux, voilà, qu'il était en technicolor, quoi. En gros, c'est ça.
Mais vous étiez un lycéen malheureux, Arthur H. Vous étiez malheureux d'avoir des parents 68 ans pour aller très vite. C'était ça le sens de ma question.
Bah, j'ai pas vraiment des parents. Enfin, si, j'avais des parents 68 ans, mais mon père, je le voyais quand même très très peu. Et ma mère, elle essayait d'être normale, c'était pas les orgies, enfin, elle avait un boulot, enfin, j'avais une vie normale, hein, j'étais pas fils de hippie, en communauté, tout ça, pas du tout. Même si, évidemment, j'écoutais Antonin Artaud, les danses et tout ça,
Et Bob Marley.
Et Bob Marley, du reggae, ouais, beaucoup. Non, j'étais très malheureux au lycée, ouais, parce que en fait, j'avais l'impression que j'apprenais rien, et je trouvais ça très triste. Déjà que je me sentais comme vraiment ignorant de la vie, pas à côté de la vie. En plus que je devais aller au lycée où on me rendait encore plus ignorant parce que je n'apprenais pas des choses qui me serviraient dans la vie. Donc je me sentais comme inutile dans cet endroit.
Et le fait d'être le fils de Jacques Higelin, peut-être que ça n'aidait pas trop à l'époque où...
Bah ça c'est vous qui le dites parce que par exemple au lycée j'étais connu comme le fils de Jacques Higelin, c'est-à-dire tout le monde me connaissait comme le fils de Jacques Higelin sauf moi en fait. Je me voyais pas comme le fils de Jacques Higelin, moi j'étais juste Arthur. Je me voyais comme j'étais assez discret comme un étudiant parmi les autres, je me voyais pas comme star du lycée. Or je l'étais mais sauf que tout le monde était au courant sauf moi en fait.
C'était pesant ?
Bah non parce que j'étais pas au courant.
D'accord.
Ouais. Après, ça a été effectivement très très pesant assez longtemps parce que voilà, c'est devenu un mythe et donc les gens vous projettent dans un mythe et déjà qu'on vit dans l'illusion. Alors là, il y avait encore plus d'illusions et puis il y avait encore plus de décalage avec la vraie réalité, avec cette espèce d'ambivalence terrible que voilà.
Mais est-ce que c'était le cas à ce moment précis quand vous décidez de fuguer, quand vous dites le désir de fuite, l'illusion que tout serait nouveau, l'envie de toucher la vraie vie, tout cela avait pris corps 2 jours avant notre supposé retour.
Ouais.
C'était pour échapper à cela ou c'était juste une envie de...
Bah, c'était surtout pour échapper à moi-même, hein, pas pour vraiment vivre. Voilà, j'ai toujours ce désir-là en moi d'ailleurs, toujours aussi...
Et ce désir de mer, de devenir navigateur?
Oui, enfin, j'ai pas eu le désir de devenir navigateur, mais je dis pas, c'est vraiment pas loin d'être doué pour ça.
Ah, c'était juste un alibi pour faire, pour faire votre fugue.
Non, il y avait quand même cette sensation d'aventure que j'avais sur le bateau, cette sensation de vagabond, comme ça, poétique, évidemment, de liberté. Il y avait pas d'horaire. Il n'y avait pas de très peu de contraintes et puis surtout cette sensation de découverte, de voyage, que chaque jour était neuf, la nature était absolument sublime tout autour, elle était étincelante.
Ça a duré combien de temps cette
fugue ? Ça a duré 3-4 mois. Et puis après, je suis plus retourné au lycée.
Un grand tournant dans votre vie que cette fugue.
Oui, bien sûr, oui, c'était un grand tournant. Puis je raconte aussi.
Tout aussi fondatrice que le fut la fugue de votre mère pour votre mère.
Oui, bien sûr, parce que c'est un an zéro, quoi. C'est un an zéro de sa propre individualité. C'est le premier choix personnel. En plus, qui est un choix puissant, qui dit bon, je me casse, bye bye, toi, je quitte le rail, quoi. Je sors du rail avec ce désir un peu, évidemment, vain, mais en même temps très beau.
Vous avez raison de dire que c'est très beau, c'est même romanesque. Alors, ouais. Ce qu'il y a de romanesque, aussi bien dans votre fugue, Arthur H., que dans celle de votre mère, Nicole Courtois Higelin, ce sont quand même les lettres pour dire aux gens qu'on a quitté, qu'on continue à les aimer, que cette fugue, c'est une histoire personnelle. Je me suis posé la question, et aujourd'hui, avec vos enfants, parce que je pense que l'histoire va se répéter, il n'y a plus de lettres de nos jours. Est-ce que vous appréhendez ce moment où vos enfants, à leur tour, vont passer par la fugue, ou vous faites tout pour qu'il ne fugue pas?
J'ai un petit garçon de 12 ans et j'ai 2 grandes filles, mais disons que mes filles, je les ai toujours énormément respectées, j'ai énormément respecté leur liberté. Donc à partir du moment où elles se sont pas senties emprisonnées dans quelque chose, elles ont pas besoin de le quitter violemment. Donc
vous vous sentiez emprisonné à un moment?
Ouais, moi je me sentais emprisonné dans moi-même, dans les circonstances, dans mon milieu, je me sentais complètement emprisonné, sinon je serais pas parti. Et puis aussi il y avait quelque chose de spirituel aussi d'un coup dans le fait de prendre ces champignons, d'avoir accès à d'autres sens en fait. Alors je fais pas du tout l'apologie des drogues en général, ça m'est égal, mais ça, je trouve qu'en termes d'expérience pour la conscience, c'est quand même intéressant de montrer justement, si on le fait très rarement, que d'un coup la conscience peut développer complètement d'autres sens, qu'on peut voir les choses très différemment, et ça m'a montré ça m'a beaucoup troublé ça. Donc j'avais aussi envie d'explorer cette voie qui pour moi était la vraie vie. Et j'avais pas envie de me retrouver derrière un bureau de classe à m'ennuyer terriblement comme si j'étais à l'usine, quoi. Vraiment, pour moi c'était la même chose. Voilà, j'ai choisi la vie.
Et vous n'avez pas peur qu'un jour vous receviez un SMS de votre fils de 12 ans?
Bah, s'il a besoin de le faire, les enfants, faut leur faire confiance. Hein. Je lui ferai confiance. Je serais peut-être plus inquiet que mon père l'a été pour moi, sûrement.
Oui, parce que ça l'a pas empêché de rentrer à Paris avec Coluche et votre frère.
Non, c'est très drôle. Non. C'est, avec le recul, c'est assez drôle. Bon, ma mère a évidemment été morte d'angoisse, mais pas lui, non, c'est sûr.
Fugue d'Arthur H, édité par le Mercure de France. Je rappelle que vous allez jouer, j'allais dire presque chez vous, le Cabaret Sauvage, c'est chez vous,
ouais.
Arthur H, le
oui.
15 juin.
Ouais.
On y sera. Merci d'être passé.
Merci beaucoup.
Mon général, mon général.
General, baby, come on and join my army. You, my little soldier, come on and make the war of love with me. I am your general, general of love. My little soldier, let's play together, let's play together.